La grâce, la paix et la joie nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Soyez effectivement dans la joie les uns et les autres pour ce moment de rencontre et de partage. Et surtout, soyez dans la joie parce que nous recevons aujourd'hui, je dirais bien François Guerrier d'abord, que je voudrais saluer parce qu'il tient l'orgue pour la première fois et que, toujours périlleux d'entrer comme ça dans un culte que l'on conduit mais musicalement pour une toute première fois. Donc je voudrais par ces mots lui signifier un grand encouragement. Et puis je voudrais accueillir évidemment Serge Oberkampf qui est à Saint-Germain, comme chacun sait, qui nous parlera du libéralisme mais qui en fera la critique du libéralisme. Et donc je suis à peu près certain que ce sera extrêmement intéressant. Mais je crois, il me semble avoir bien compris que certains du foyer de certains de la rue Madame, sont venus écouter leur ancien pasteur. Et donc à cela, je leur souhaite aussi évidemment la bienvenue. Sentez-vous vraiment chez vous dans ce temple du foyer de l'âme. On est tout à fait heureux de vous accueillir en cette circonstance, évidemment. Et puis tous les autres évidemment du foyer de l'âme ou d'ailleurs. Eh bien, soyez aussi tout à fait chez vous dans cette maison que le Seigneur habite. Et c'est là qu'il nous accueille, évidemment, en ce dimanche pour partager un moment autour de sa personne. Oui, Seigneur, il y a au cœur de chacun d'entre nous un chant de délivrance parce que tu es celui qui nous libère de nos peurs, de nos préjugés, de toute forme d'entrave, quelle qu'elle soit, et nous t'en remercions. Tu es celui qui nous appelle à vivre la liberté des enfants de Dieu, à vivre en ta présence, plein d'espérance et de joie. Oui, merci Seigneur de nous appeler ainsi, alors que nous ne sommes que ce que nous sommes, souvent limités, souvent oublieux, des choses les plus nécessaires à la vie, mettant parfois loin de toi ta propre parole, écartant d'un revers de la main nos voisins et nos amis. Oui, Seigneur, tu nous appelles pourtant à la délivrance, à la joie, à la vie, parce que tu es le Dieu d'amour qui se révèle dans l'Écriture et en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous accueillir les uns les autres d'horizons divers pour vivre de l'essentiel, pour vivre de ta parole. Une parole qui est une vraie nourriture, le pain dont nous avons besoin à chaque instant, à chaque jour. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette parole puisse nous accompagner au fil des jours. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Et aujourd'hui, je vous invite à entendre dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, les versets 17 et suivants. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat, avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprit impur étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, il les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit, « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil, vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. Mais je vous dis, À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. Ô Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Quand votre pasteur Vincent Hubach m'a demandé de critiquer le libéralisme, ma première réaction a été de dire « c'est pas très poli d'aller chez des gens pour dire du mal d'eux ». Mais après ça, j'ai trouvé cette démarche de sa part très courageuse, car nous avons tous tendance, n'est-ce pas, à baigner dans nos idées ancestralement reçues et à ne jamais vouloir s'en départir, ni même regarder ce qui pourrait être autre que cela. Et donc, par conséquent, je me suis dit simplement qu'à charge de revanche, je devais sans embâge me dire ce que je pense du courant libéral. Alors, je vous préviens, ça va commencer gentiment, mais ça va finir assez mal. Vous ne m'en voudrez pas, parce que je fais cela dans l'amour de Jésus-Christ. Et naturellement, nous sommes tous là réunis par plus grand que nous. Et c'est dans cette perspective qu'il me paraît intéressant de vous parler ce matin. Il y a 35 ans, je me suis lancé dans la rédaction d'un mémoire de maîtrise en théologie qui porte le titre suivant. Orthodoxie et libéralisme dans l'Église réformée de France, de la guerre à nos jours. Les années 70, où ça se passait, ne resteront pas dans les mémoires comme une période de paix ecclésiale. Loin s'en faut. Je fréquentais à l'époque des cercles assez réactionnaires qui avaient tendance à coller l'étiquette libérale à tous ceux qui n'étaient pas eux-mêmes. Je me suis cependant assez vite rendu compte qu'il n'y avait rien de commun entre Philippe Vasseau et Georges Casalis, et je décidai d'enquêter pour savoir si les débats de naguère entre orthodoxes et libéraux avaient aujourd'hui gardé quelque pertinence. Pendant mes études de théologie et pendant la rédaction de ce mémoire, j'étais en stage pendant quelques mois ici, sous la direction éclairée du pasteur Georges Marchal et du pasteur Laurent Gagnebin, grâce auxquels je ne me sens pas trop ici comme un lion dans une fosse pleine de Daniel. Et pour la première fois, c'est ici que je me revêtais de la robe et montais en chaire, puis je me lançais dans la lecture exhaustive de la collection d'Évangile et Liberté. Quand après cette lecture, je fis part à mon directeur de mémoire, le professeur André Gounel, de la difficulté que j'avais à trouver un fil conducteur permettant de spécifier une théologie libérale, il me conseilla de prendre pour guide le cartouche du journal qui pouvait, à son sens, rencontrer l'adhésion de tous ceux qui se voulaient libéraux. Je me propose de reprendre ce matin la même démarche, en commençant par ce qui me semble être l'expression du meilleur bon sens, pour suivre par ce qui me paraît vrai, mais qui me paraît aussi parfois l'indice de préoccupations aussi âgées que la poussière sur les murs de la sacristie de l'oratoire de Louvre, pour terminer enfin par des affirmations qui me semblent les plus contestables. Dans la première catégorie, je rangerai deux affirmations du cartouche. Le refus de tout système autoritaire et la valeur relative des institutions ecclésiastiques et la vocation de l'homme à la liberté. C'est une tendance lourde, je dirais presque mécanique, pour toute institution de s'autoriser à dire le bien pour les autres. et à s'autoproclamer dépositaire, privilégié de ce qui est vrai, et quand il s'agit d'Église, de l'Esprit Saint. Le catholicisme romain, par définition, revendique cet illuminisme institutionnel parce qu'il délègue au magistère le pouvoir de parler au nom du Saint-Esprit. C'est la raison, entre parenthèses, pour laquelle nous ne ferons jamais église commune avec les catholiques, puisque les choses qui ont pu être dites, par exemple, au Concile de Trente, sont réputées avoir été dites par Dieu lui-même et par conséquent sont irréformables. Or, comme là, il y a un catalogue de choses pour lesquelles nous nous sentons tous effectivement anathémisés et nous n'avons pas forcément envie de renoncer à ces choses. Je dirais refuser tout système autoritaire ne me paraît pas une attitude spécifiquement libérale. Elle devrait être une caractéristique de tout protestant digne de ce nom. Mais il faut constater que de loin en loin, la tentation du pouvoir n'épargne pas nos propres institutions ecclésiastiques, surtout quand elles se laissent emporter par des courants idéologiques puissants. On peut citer deux périodes dans un passé récent, celle de l'engouement écuménique et celle où quelques Pol Pot issus de la décomposition du courant barthien avaient voulu faire de tout passé table rase. Il faut rendre grâce au libéralisme de rappeler, comme Marie Durand à la Tour de Constance, qu'il faut savoir résister. L'Église a pour mission de servir son Seigneur, pas d'empiéter sur la souveraineté de Dieu. Mais la facilité avec laquelle l'institution dérive vers des pratiques de pouvoir, l'engouement frétillant que l'on voit chez certains à l'idée d'avoir un strapontin rue de Clichy montre que cette dérive satisfait bien des désirs humains. C'est l'affirmation de la vocation de l'homme à la liberté qui prend alors tout son sens. Il s'agit bien en effet d'une vocation, d'un appel, car, voyez-vous, ce que l'homme désire n'est pas tant la liberté que la sécurité. « Retournons en Égypte », disait déjà le peuple dans le désert, parce qu'on aura beau y être esclave, au moins on sait ce qu'on mangera demain matin. Il faut sans cesse rappeler que l'homme selon Dieu est celui qui devient libre et prendre les mesures pédagogiques nécessaires pour que l'on préfère dire une bêtise que se taire et avoir éventuellement tort avec sa conscience que raison avec le vent de la dernière doctrine à la mode. Enfin, mesurer l'importance de la confiance en Dieu pour passer au-delà du « qu'en dira-t-on » ou du « que va-t-on penser de moi » est effectivement là où est l'Évangile, là est la liberté. Dans une deuxième catégorie, je placerai deux autres affirmations. La primauté de la foi sur les doctrines et la constante nécessité d'une critique réformatrice. On voit bien ce qui, au XIXe siècle, a pu motiver que l'accent ait été mis là. C'était à l'époque le centre des débats, voire des combats. D'un côté les libéraux, de l'autre les orthodoxes évangéliques, et la rupture de 1872 autour de la question de la confession de foi. Mais depuis lors, après deux guerres mondiales, Auschwitz et Vatican II, nous avons changé de planète. Et il est intéressant de noter qu'avant de rencontrer des libéraux, ici même, personne ne m'avait jamais traité d'orthodoxe. Alors que dans la minute qui suit le début d'une conversation, le libéral a réussi à revendiquer son appartenance à ce courant, il ne viendrait jamais à l'idée de son interlocuteur de s'appliquer à lui-même le qualificatif d'orthodoxe. Cette classification est devenue largement une fiction. Et je me suis posé la question un peu méchante de savoir si elle ne remplirait pas une fonction nécessaire à l'auto-justification du libéralisme. Comme celui-ci échappe par nature à toute définition dogmatique ou systématique. Il lui est pratique de s'identifier à partir d'un adversaire commun, même si celui-ci n'est plus qu'un souvenir historique. Je ne suis même pas sûr que les mouvements de réveil du XIXe siècle aient pu mériter d'être qualifiés d'orthodoxes. En fait, la dernière vraie proclamation dogmatique de l'orthodoxie réformée est le contenu des canons du synode d'Ordrecht 1618-1619. Les débats du XVIIIe siècle qui s'ensuivirent, Moïse Amirault, François Turtin, Pierre Dumoulin, n'ont guère laissé de traces dans les mémoires. La rupture de ce que nous appelons le désert entre la révocation de l'édit de Nantes et l'autorisation de liberté de religion n'a pas permis aux protestants rescapés de faire autre chose que de cultiver la nostalgie d'un passé glorieux. Des apports extérieurs modifient profondément la population protestante. L'individualisme rendu possible par la laïcisation de l'état civil et l'idéal démocratique donne naissance aux premières églises de professants. Le conflit entre le positivisme bibliciste des évangéliques, c'est écrit dans la Bible, c'est donc historiquement vrai, et le positivisme scientifique des libéraux, cela ne peut pas s'être passé comme cela, donc c'est faux, est largement dépassé par la fin de l'hégémonie de l'histoire comme critère de vérité. Tout le monde admet que ce qui est historiquement faux peut être en même temps théologiquement vrai. Foncièrement optimistes et croyant au progrès, les massacres guerriers et les prises de position douteuses, par exemple d'Adolphe von Harnack, ont réduit les libéraux à plus de modestie, tandis que les résultats de l'archéologie, comme ceux de la critique textuelle, ont contraint les évangéliques à abandonner leur conception quasi coranique de la révélation. On peut donc se demander ce qui pourrait être aujourd'hui l'objet d'une critique réformatrice. Les débats théologiques, s'il en reste, n'ont plus guère de consistance. Le protestantisme est passé du confessionnel au compassionnel. Chacun fait ce qu'il veut dans les limites d'une très large tolérance. Personne n'obligera les pasteurs à lire le symbole des apôtres et l'on n'ira pas chercher Noise à qui affirme avoir de sérieux doutes sur la divinité du Christ. J'ai pu ainsi, il y a quelques années, déclarer devant le synode national qui venait de la voter que jamais je n'utiliserai la liturgie rangée dans un classeur jaune sans que cela provoque la moindre réaction. S'il n'y a plus depuis longtemps d'orthodoxie, il y a en revanche de temps en temps des bouffées d'orthopraxie qui s'illustrent par des concerts de jérémiades et des déclarations en faveur de tout ce qui ne va pas dans le monde qui n'ont d'autre effet que de donner bonne conscience à ceux qui les produisent. Cet humanisme mou, sorte de christianisme empaillé, fait souvent regretter le temps où l'on s'affrontait sur des questions de doctrine, où l'on avait à cœur de penser sa foi, pas seulement de la ressentir. La foi produit de l'ardeur, les propositions dogmatiques, de quoi penser. Il serait dommage de vouloir les hiérarchiser à une époque où la mollesse règne sur l'Église. Troisième partie, l'affirmation selon laquelle les hommes sont tous, sans distinction, enfants de Dieu, me laisse, je dois le dire, pantois. Et ce, pour trois raisons. Il me semble tout d'abord qu'une telle affirmation a pour conséquence d'enlever à la Bible tant de pages qu'elle en devient méconnaissable. On peut ne jamais lire les livres des Chroniques, ni certains passages du Lévitique, ni les deux dernières épîtres de Jean, sans que la compréhension générale des Écritures s'en trouve affectée. On peut se désintéresser des discussions sur la Trinité et ne lire jamais au culte le symbole des apôtres. La vie de l'Église ne s'en trouvera pas bouleversée. Un peu comme dans une voiture, vous retirez le siège arrière et les enjoliveurs, cela ne vous empêchera pas de rouler. Si en revanche vous oubliez de mettre de l'essence, la voiture n'avancera plus. L'Écriture annonce dans de nombreux passages que les humains ne sont pas tous enfants de Dieu. Ils sont des créatures que Dieu aime, pour lesquelles il a un projet. C'est en tout cas comme ça que j'interprète « Dieu créa les êtres humains à son image ». Ce projet est qu'ils deviennent ses enfants. De différentes façons, il les y appelle. Le Nouveau Testament énonce que cela advient en acceptant de recevoir Jésus de Nazareth comme étant le Messie et de devenir ainsi ses frères et ses sœurs adoptifs. Quelques-uns l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Ce devenir est une promesse de celles qui mettent en mouvement, tel Abraham parti sans savoir où il allait. Ainsi, ma deuxième raison est que cette affirmation a pour effet de casser la dynamique même de la foi. Si nous sommes en quelque sorte statutairement enfants de Dieu, pourquoi ne pas rester tranquillement chez soi? Où est pour chacun et chacune d'entre nous l'enjeu mobilisateur de notre appartenance à une église chrétienne? En quoi l'annonce de l'évangile du Christ demeure-t-elle essentielle? Telles sont une partie des questions qui se bousculent dans ma tête. Car je crois quant à moi fermement que cette différence entre créature et enfant de Dieu est l'essence sans laquelle la voiture ne peut pas avancer. La troisième raison concerne le mot « sans distinction ». J'ai autrefois appris en philosophie que l'indistinction, c'était l'entropie, le retour à la non-vie du chaos initial. La Bible n'arrête pas de faire des distinctions, non seulement entre la nuit et le jour ou entre le sec et le mouillé, mais aussi et surtout entre les hommes. Ce ne sont pas les Japonais ou les Arabes qui portent les promesses de Dieu, mais les Juifs, objet d'un amour particulier. Distinction entre Sarah et Agar, entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères, entre les Lévites et les autres tribus. Certains hommes reçoivent, malgré un comportement odieux, la faveur spéciale de Dieu, comme David, assassin d'Uri, le Hittite. Jésus appelle comme disciples certains hommes et d'autres pas. Il ne guérit pas tous ceux qui le lui demandent. Les apôtres distinguent l'Église et le monde. Faute de quoi, si tous les individus sont indistinctement enfants de Dieu, quand vous entendez frères et sœurs, vous ne devez pas oublier d'y inclure Hitler, Staline et Pol Pot. C'est un fait que celui de l'élection, un fait dont les modalités ne regardent que Dieu, mais au travers duquel nous sommes appelés à entendre sa voix. Ce phénomène électif peut en effet se manifester dans des épisodes parfaitement injustes et que la morale et l'équité réprouvent absolument. Il y avait sûrement des gens très bons, très serviables, très dévoués aux autres parmi les premiers-nés des Égyptiens morts dans la nuit de la Pâque et inversement sans doute des Hébreux épouvantables qui n'ont subi aucun dommage. Le paroxysme se trouve dans la crucifixion de Jésus. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des hommes pécheurs. Acte 2, 23. Combien de fois n'ai-je pas lu dans les publications libérales qu'un père digne de ce nom ne pouvait pas laisser son fils mourir, que ce n'était même pas digne d'un honnête homme, et voilà qu'en plus, c'était programmé. Mais pourquoi donc vouloir absolument que Dieu soit le modèle de l'honnête homme? S'il juge bon pour sa révélation qu'il se comporte à nos yeux comme un salaud en certaines circonstances, nous sommes là pour essayer de comprendre, pas pour exclure a priori une telle explication pour des raisons morales. Voici donc quelques remarques que je peux faire sur le libéralisme théologique. Je ne cherche pas à vous exhorter à cesser d'être ce que vous êtes, car contrairement à certains, je crois que l'Église serait appauvrie si vous n'existiez plus. Au risque de paraître un peu pontifiant, je pense que vous auriez à gagner à ne pas cultiver trop exclusivement la bonté de Dieu et son amour, et à prendre en compte l'altérité de Dieu, ce que Kierkegaard appelait la différence qualitative infinie. Comme dit le prophète, mes voix ne sont pas vos voix. Notre marche, vous le savez, est ponctuée de ruptures, de deuils, de recommencements, et la vie est plus souvent un combat que la recherche de l'harmonie. Quant à moi, j'aurais tout à gagner si un pasteur de votre courant venait un jour faire la critique de mon orthodoxie. Ma paroisse de Saint-Germain est encore fort marquée par le long ministère du pasteur Pierre Marcel, calviniste strict s'il en fut. Cela ferait beaucoup de bien à mes paroissiens d'entendre un autre son de cloche. Je vous remercie.
Voilà, j'espère que vous n'êtes pas déçus, les libéraux, de la critique que vous avez entendue. Dans tous les cas, moi, je ne suis pas déçu, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce que Serge dit, même si je sais apprécier l'ensemble de l'exposé, évidemment. Vous aurez tout loisir pour rencontrer Serge, lui poser des questions, le contester aussi, sans doute, je ne sais pas, le féliciter, j'espère. Tout à l'heure, à l'issue de ce culte, puisqu'il y a un pot d'accueil qui est prévu, normalement, en sortant dans la salle de gauche, et peut-être que certains d'entre vous voudront rester au repas qui suit. Il y en a beaucoup qui se sont inscrits, mais... on prévoit toujours un peu plus que le nombre d'inscrits, que donc si vous n'êtes pas inscrit, si vous avez envie de rester malgré tout, eh bien écoutez, on partagera et on refera le coup de la multiplication des pains. En ce qui concerne les conférences, je voudrais vous signaler qu'elles sont enregistrées sur le site de la paroisse du Foyer de l'Âme, d'une part, et que vous pouvez dès aujourd'hui, là tout à l'heure, la sortie du culte, là, vous les procurer par écrit. Vous avez le choix, elles sont déjà publiées, car nos quatre conférenciers ont eu la sagesse de nous donner leur exposé un petit peu en avance, de telle sorte que c'est prêt pour aujourd'hui. Alors, si vous les voulez, il faudra les payer hein, quand même. Hein. Voilà. Si les choses sont gratuites dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'en bas, bon, alors c'est 8 euros. C'est ça, hein, Brigitte, Madame la Trésorière, c'est bien ça, c'est 8 euros. Le fascicule, ça fait 2 euros par conférence, c'est-à-dire la moitié d'un paquet de cigarettes, si je ne me trompe. Je ne suis pas fumeur, mais je crois que c'est à peu près ça. Dans nos prières, il y a tant et tant de choses à dire, à commencer par un moment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ça va de soi. Moment de reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu, mais aussi moment de partage pour toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons, qu'ils soient proches ou loin. Que ce soit des gens qui sont de notre cercle, de nos familles, ou des gens comme ces gens de la rue qui sont là, pas très loin de chez nous, qui frappent parfois à nos portes, ou des gens qui sont si loin, qui n'ont pas de nom, pas de visage pour chacun d'entre nous et qui pourtant sont là, existants. Il y a tant et tant de choses à remettre à Dieu que je vous invite à remettre toutes ces pensées, ces intentions, ces visages et ces vies dans la prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime bien comparer l'Église à un port, avec des bateaux. Et je me dis qu'un port qui n'a pas de bateau, c'est vrai que les quais sont stables, protègent le navire, mais s'il n'y a pas de bateau, cet endroit est mort et inutile. Mais je me dis qu'un bateau qui n'a pas de port risque de se perdre en haute mer à un moment donné ou à un autre. Il faut les deux pour que ça puisse vivre et fonctionner. Alors je me dis qu'il faut des sièges en Berkamp, quelque part, des gens qui viennent nous enseigner la saine doctrine, comme il se doit, nous rappeler la toute-puissance de Dieu, mais qu'il faut, alors ça c'est le quai sur lequel on peut s'appuyer, chose de solide et de stable, mais qu'il faut aussi des bateaux qui partent au loin pour chercher un vent nouveau, d'autres marchandises, et que l'ensemble ainsi, se réunissant, puisse vivre et porter un témoignage de la liberté de Dieu, de la vie des hommes sous ce regard divin, de la joie, de l'espérance et de l'échange. Eh bien, chers amis, j'espère que vous réfléchirez à cela, à tout ce que Serge nous a dit dans la critique du libéralisme, qui, loin d'être négative et constructive, évidemment, que vous avez au cœur ce que vous avez entendu dans les autres conférences sur le libéralisme et qu'en vous, j'espère qu'il y aura un débat fructueux, évidemment, qui vous nourrira jusqu'à l'an prochain où nous nous retrouverons, j'espère, pour réfléchir à nouveau dans une série de conférences sur d'autres sujets. Je crois que ça sera sur la diaconie, c'est ça? Je regarde mes conseillers presbytéraux, oui, c'est ça, je ne me trompe pas, parce que vous savez, bon, les pasteurs ont souvent la tête au ciel et pas toujours les pieds sur terre. Bon, on est comme ça, voilà. Donc vivez pleinement cette réflexion qu'on a essayé de vous apporter ces jours-là et soyez certains que Dieu est là en vos cœurs pour vous bénir, pour vous garder et vous accompagner jour après jour. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse et vous garde maintenant et à jamais. Amen.